Un mot d'abord, si vous le voulez, du caractère de Wesley. Wesley était un homme extrêmement consacré au Seigneur. Il est évident que c'était un homme de Dieu qui ne comptait ni son temps ni sa peine, qui était prêt à prendre des risques et qui l'a montré à différentes reprises. C'était aussi un homme qui a été remarqué par tous ceux qui l'ont connu, qui l'ont approché pour sa bonté et son dévouement. Et c'était un homme, par exemple, qui savait pardonner à ses ennemis et qui ne gardait absolument pas rancune. Il a eu des accros nombreux avec de nombreux adversaires qui s'opposaient à sa prédication. Il ne leur a jamais tenu rigueur. C'était un homme aussi qui était animé d'une très grande patience, n'est-ce pas, qui savait supporter bien des choses. Il a prêché 40 000 fois pendant sa vie. Et c'était un homme qui était extrêmement équilibré, serein, calme, et finalement un homme qui était un homme heureux. Il était, manifestement, c'était un homme pleinement épanoui. Mais aucune douleur ne le laissait indifférent, aucune injustice ne le laissait insensible, et il s'est, en dehors de ses tâches purement spirituelles, il s'est beaucoup intéressé aussi à secourir toutes les misères qu'il pouvait rencontrer. Il a organisé des soupes populaires, il s'est soucié des pauvres, des défavorisés, des démunis. Il a créé des dispensaires, il a même organisé des sociétés de prêts pour aider justement ceux qui étaient les plus défavorisés. Il a visité des prisonniers dans leur prison, il a eu tout un ministère dans ce domaine-là aussi. Il a organisé dans ses circuits et dans les différentes institutions qu'il a créées. Il avait donc organisé aussi des visites dans les prisons. C'était aussi l'époque où l'Angleterre était marquée par l'immoralité, par l'alcoolisme, et il s'est intéressé à ces problèmes-là. Il a attaqué de front ces deux fléaux qui étaient l'immoralité et l'alcoolisme. Il a organisé des sociétés de tempérance pour essayer de relever les buveurs. Il a organisé des maisons spéciales aussi pour essayer de relever les prostituées et les gens semblables, n'est-ce pas? Et puis alors aussi, il y a un problème qui l'a toujours beaucoup motivé, c'était la question de l'esclavage aux États-Unis. Il avait été très jeune déjà visiter les États-Unis et il avait été particulièrement sensible au fait que nombre de ces malheureux étaient réduits en esclavage dans les États du Sud. Et bien qu'étant lui-même loin du théâtre des opérations, il a fait ce qui était en son pouvoir pour promouvoir justement la libération de ces esclaves noirs. Et notamment, il a écrit un ouvrage qu'il a intitulé « Pensées sur l'esclavage », dans lequel il montrait que l'esclavage était absolument incompatible avec la doctrine de l'Évangile. Il a été aussi un écrivain extrêmement prolifique. Et notamment, il a écrit de nombreux traités qu'il distribuait, n'est-ce pas, des traités sur l'Évangile, des courts écrits, n'est-ce pas, qui invitaient les gens à se convertir, etc., qui étaient écrits, qui étaient vendus par paquet de 10 pour quelques argent, peu d'argent, n'est-ce pas, c'était très bon marché, et qui étaient les ancêtres, si vous voulez, des traités d'évangélisation qui sont devenus maintenant courants dans le monde évangélique. C'est lui, en quelque sorte, qui a inventé cette manière d'évangélisation par les traités. Finalement, c'est devenu monnaie courante dans le monde évangélique. C'était aussi dans le contexte d'une époque où ça pouvait passer, n'est-ce pas? Bon, maintenant, évidemment, ça change un peu. Mais c'était aussi un érudit. Et à côté de, s'il savait être un prédicateur populaire qui savait se mettre à la portée des plus simples parmi ses auditeurs, et donc expliquer l'Évangile dans sa simplicité, il était aussi quelqu'un qui savait parler avec des gens beaucoup plus évolués, beaucoup plus instruits. C'était aussi quelqu'un qui s'intéressait beaucoup à la France. Il aimait beaucoup la France. Et il aimait beaucoup, parmi ses auteurs préférés français, il y avait Pascal, bien sûr, et ça c'est tout à fait compréhensible. Et puis alors, comme je disais la dernière fois, Mme Guyon, ça semble tout à fait étonnant, n'est-ce pas, mais Mme Guyon avait vraiment un gros, gros impact en Angleterre à ces époques-là, jusqu'à aujourd'hui dans les milieux évangéliques. Ça date aussi de Wesley. Il parlait le français. Et il a même écrit une grammaire française à l'usage des Anglais, n'est-ce pas? Et puis aussi une grammaire hébraïque. Et puis alors il s'est intéressé à des choses qui semblent tout à fait étrangères avec l'Évangile. Et on peut se demander quand et comment il trouvait le temps pour s'occuper de choses comme ça. Il a écrit un traité de médecine, il s'est intéressé à la médecine, et il a même écrit des choses sur la médecine. Et puis aussi sur l'électricité, il a écrit un traité sur l'électricité. On peut se demander pourquoi, mais enfin voilà, c'était certainement... Bon, c'était un grand organisateur et... Il a vraiment utilisé tout ce qui était possible pour le mettre à la disposition du but spirituel qu'il se proposait, qui était évidemment l'avancement du royaume de Dieu. Il avait prévu qu'après sa mort, le mouvement qu'il avait créé, le mouvement de réveil qu'il avait créé, se séparait de l'Église anglicane. Et avant sa mort, il avait préparé, en quelque sorte, cette séparation qu'il avait reconnue comme étant absolument inévitable, mais qu'il déplorait, n'est-ce pas, parce que lui-même ne se considérait pas comme l'Église de Jésus-Christ, mais comme il le disait, une section de l'Église de Jésus-Christ. Bon, c'était aussi un théologien, et au sens bon du terme, au sens noble du terme, et à sa mort, n'est-ce pas, sur sa tombe, celui qui a fait l'oraison funèbre a eu cette parole qui était le plus bel hommage qu'on pouvait lui rendre. Il fut l'homme d'un seul livre, hein, la Bible. Alors, le mouvement qu'il avait créé s'est perpétré, nous l'avons vu, dans bien des manières, pas toujours, hélas, comme il l'aurait souhaité. Et notamment, le mouvement wesleyen, nous l'avons vu, n'est pas resté uni, malheureusement. Et parmi les églises qui sont issues du mouvement wesleyen, il y a ce qu'on appelle l'église de Philadelphie. Bon, qui part, si vous voulez, de la doctrine wesleyenne et qui insiste sur un côté mystique, si vous voulez, qui était bien entendu dans le piétisme, qui était déjà dans le piétisme des Moraves, qui était aussi dans le piétisme des Wesleyens, parce que c'était finalement le même mouvement, mais que l'Église de Philadelphie va promouvoir d'une manière un petit peu plus forte, n'est-ce pas? Il s'agit de l'union de l'âme avec Dieu, de la soif de l'unité avec Dieu. Donc, c'est vraiment ici dans une vision mystique qui n'est pas sans rappeler des mystiques comme Ignace de Loyola ou Thérèse d'Avila ou des gens comme ça, ou Madame Guyon aussi, un peu, ou Fénelon, n'est-ce pas? Et qui prônent un certain ascétisme. Et parmi ceux qui sont issus de cette église de Philadelphie, il faut noter notamment Gottfried Arnold, 1666-1714, qui a écrit une histoire de l'église et où il a mis en évidence que la véritable église est restée cachée, dispersée dans tous les peuples et dans toutes les dénominations. De cette vision de l'Église qui était celle de Gottfried Arnold, n'est-ce pas, est née justement l'Église de Philadelphie, qui s'est aussi répandue en Allemagne, dans le Wittenberg, en Westphalie, et notamment parmi des nombreux camisards ou huguenots qui s'étaient réfugiés dans ces régions-là, donc après la révocation de l'édit de Nantes. Il est le premier à avoir considéré que les lettres aux églises de l'Apocalypse avaient un sens prophétique et s'appliquaient donc aux différents âges de l'Église. Il fallait lire donc là une véritable histoire de l'Église. Bon, c'est un petit peu discutable. Et il voyait dans l'Église de Sardes le protestantisme de son temps qui passait pour être vivant, mais qui en fait était mort. Ensuite, il annonçait que viendrait l'indifférence de Laodicée, et que précisément il fallait essayer d'imiter non pas Laodicée, mais Philadelphie. D'où justement l'église de Philadelphie qui va être donnée au mouvement. En 1695, la première église de ce nom est fondée à Londres, puis de là le mouvement se répand en Allemagne, en Hollande, dans le Brandebourg, et il y a un réveil authentique, indiscutable, qui découle de ce mouvement de Philadelphie, notamment justement qui s'étend à toute l'Allemagne. En 1712, l'église de Philadelphie publie sa propre traduction de la Bible, qui s'appelle la Bible de Marbourg, et qui est en conformité avec l'enseignement qui est ainsi dispensé. Zinzendorf est entré en contact avec ces églises de Philadelphie, qu'il a considérées avec sympathie. Il s'est intéressé à ces églises-là. Il les a protégées. Il y a eu une certaine collaboration entre les Moraves et puis les membres de l'église de Philadelphie. Ce qui est aussi remarquable et qui les rend assez sympathiques, c'est que c'était des gens qui avaient de l'amour pour les Juifs, ce qui était assez rare à cette période-là, et qui croyaient que les Juifs reviendraient dans leur pays comme signe précurseur du retour de Jésus-Christ, n'est-ce pas ? C'était l'époque où il y avait aussi en Angleterre des mouvements du même type, des mouvements millénaristes, qui redécouvraient la place d'Israël dans le plan de Dieu. Et qui était directement voyait justement cette imminence de la fin, cette imminence dans la parousie, dans le fait que l'Angleterre était plongée dans l'immoralité, dans l'indifférence, que circulait la littérature athée, impie, que l'ivronnerie, le crime, la violence se répandaient partout, et par conséquent qu'on devait s'attendre, que c'était là les signes de la fin, que l'on devait s'attendre au retour du Seigneur d'une manière très proche. C'est à cette période-là, n'est-ce pas, aussi que un réveil est né dans le pays de Galles à la suite de cette prédication des églises de Philadelphie. Au moment même où le réveil wesleyen éclatait. Donc il y a eu conjugaison de ces deux réveils, dans le Pays de Galles également, et finalement, les deux mouvements, les sociétés wesleyennes qui ont été créées dans le Pays de Galles, se sont très bien entendues avec les églises de Philadelphie, et se sont maintenues dans le Pays de Galles, pratiquement jusqu'à nos jours. Les églises de Philadelphie insistaient davantage sur l'expérience que sur la doctrine. Ça, c'était un petit peu le point faible, si vous voulez, de leur vision des choses. Et ils ne cherchaient pas, finalement, c'était pas des gens qui cherchaient à créer une église particulière, mais finalement, tous ceux qui s'étaient convertis par leurs soins pouvaient se joindre aux églises de leur choix. D'où justement le fait que l'implantation du mouvement méthodiste dans le Pays de Galles n'a pas posé des problèmes particuliers à ces églises-là. Finalement, se sont créés des groupes de chrétiens convaincus de la vérité, n'est-ce pas, qui ont donné au Pays de Galles une assise qui devait finalement se retrouver dans le réveil qui a marqué le début de ce siècle présent et on pourrait dire finissant. Une autre conséquence du réveil wesleyen fut le réveil des deux frères Holden, H-O-L-D-A-N-E, James et Alexander, qui appartenaient à une riche famille écossaise. Et James a commencé à prêcher en 1797, influencé par la doctrine de Wesley, alors que le pasteur était occupé à s'occuper des mineurs, n'est-ce pas, qui étaient nombreux dans cette région-là. Et les deux frères Holden étaient en fin de compte des laïcs qui avaient commencé leur travail en distribuant des traités justement wesleyens, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Et puis qui soudain se sont mis à prêcher parce que le pasteur était indisponible. Et c'est alors que le synode de l'église presbytérienne écossaise, le synode d'Alexandre, a interdit la prédication des laïcs. Ce qui fait que les frères Holden ont été obligés de quitter l'église nationale. Alors ils ont créé à Édimbourg une église qui a bientôt compté 300 membres. Et c'est alors qu'ils se sont mis à avoir des doutes au sujet du baptême des enfants. Finalement, ils ont été amenés à reconnaître l'importance du baptême des adultes, mais ils ont un petit peu hésité, comme l'avait fait Wesley, qui avait reconnu d'ailleurs lui-même aussi, nous l'avons vu, la vérité du baptême des adultes, mais qui n'avait pas osé se dresser contre la tradition de l'Église et qui avait gardé les deux baptêmes. Finalement, quand on garde les deux baptêmes, l'expérience montre que c'est le baptême des enfants qui finit par l'emporter, ce qui s'était produit aussi dans le réveil des frères Holden. Et au début du siècle suivant, en 1816, le réveil qui avait commencé à Édimbourg et dans les environs s'est propagé en Suisse romande, à Genève et puis dans toute la Suisse romande. Et ce que l'on appelait le réveil, qui a gagné également la France à cette période-là, le réveil dans lequel a été impliqué, comme nous aurons l'occasion de le voir, un homme comme Félix Neff, par exemple, s'est converti dans toute la génération des jeunes pasteurs suisses, n'est-ce pas, qui ont connu les frères Haldane, qui sont venus eux-mêmes à Genève prêcher l'évangile. Il y avait Alexandre Vinet, il y avait tous ces gens-là, n'est-ce pas? Et le, si vous voulez, tous les mouvements tels que tous ceux qui gravitent aujourd'hui autour de la Convention de Morges, qui se rassemblent depuis ces années-là, chaque année, des églises de type frères, etc., sont nés justement du réveil de 1816, ce qu'on appelle en Suisse le réveil, n'est-ce pas? Tout simplement, quand on dit le réveil en Suisse, c'est de ce réveil-là qu'il s'agit. Alors voyez-vous, indirectement, le réveil wesleyen a touché les pays francophones. Wesley lui-même est venu en France, pas souvent, mais il est venu, il a prêché au Temple de l'Étoile, il a prêché dans différents temples parisiens. Mais finalement, le réveil lui-même n'a pas eu un gros impact, même si des méthodistes, nous aurons l'occasion de le voir, sont venus au début du XIXe siècle aussi prêcher, notamment en Bretagne, et que nombre d'églises protestantes bretonnes sont nées justement dans la vision wesleyenne. Mais finalement, la plus grosse contribution, si vous voulez, au réveil du protestantisme de langue française a été indirecte, n'est-ce pas, par l'intermédiaire justement des frères Haldane. Bien, nous avons terminé avec le réveil wesleyen. Nous allons entamer un autre chapitre maintenant, la question des missions. Les missions, nous l'avons vu, avaient été particulièrement négligées par le protestantisme depuis Luther. Luther pensait d'ailleurs que l'évangélisation du monde était achevée, qu'il n'y avait pas à s'en préoccuper, et les réformateurs n'ont pas eu pratiquement de vision missionnaire aucune. Il a fallu attendre le réveil morave, nous l'avons vu, pour qu'il y ait un gros effort missionnaire qui était entrepris par les protestants. Ce réveil a marqué la première partie du siècle, et il y aura aussi, bien entendu, une vision missionnaire du même type qui naîtra dans les mouvements wesleyens. Mais nous avons aussi une autre église qui, elle, avait une vision missionnaire depuis toujours, c'était l'église catholique. Alors il nous faut parler un petit peu des missions catholiques au XVIIIe siècle. La mission catholique, depuis le siècle dernier, le siècle précédent, après avoir donc conquis l'Amérique du Sud en particulier, après les grandes découvertes de Christophe Colomb, etc., du XVe siècle, les missions catholiques maintenant vont se tourner, dès la fin du siècle, du XVIe siècle, vers l'Extrême-Orient, la Chine, le Japon, l'Inde. Et le XVIIIe siècle sera marqué par la poursuite de cet effort vers ces pays. En 1801, le pape envoie en Orient Charles Maillard de Tournon, qui est un jeune aristocrate de 33 ans, qui se rend à Pondichéry en Inde, et il va passer là-bas un certain temps. Et là, il comprend que l'échec de l'implantation catholique en Inde vient de ce que les missionnaires n'ont pas su respecter les coutumes locales et qu'ils ont voulu plaquer en quelque sorte dans une civilisation totalement différente de la civilisation occidentale, les coutumes occidentales, le latin. Par exemple, les missionnaires avaient introduit en Inde la messe en latin. Alors vous comprenez bien que les malheureux Indiens, qui n'en comprenaient pas un traître mot, se sentaient complètement étrangers à ce culte étranger, c'était le cas de le dire. Et donc ici, ce Charles Maillard est le premier à se rendre compte que il faut complètement changer le fusil d'épaule. En 1705, il arrive à Pékin, toujours sur l'ordre du pape, et là il se rend compte que finalement la même erreur a été faite et que la raison de la non-pénétration du catholicisme en Inde vient précisément de cette énorme erreur, cette grossière erreur par rapport au tout à tous de Paul. Malheureusement pour lui, il meurt à Macao le 8 juin 1710. Et il ne peut donc faire son rapport au pape. Donc, si vous voulez, pendant tout un temps, les choses vont continuer de cette manière. C'est alors que l'empereur de Chine découvre avec stupeur, n'est-ce pas, que les jésuites, en fait, dépendent d'un souverain étranger, le pape. Et par conséquent, que laissant le catholicisme s'instaurer en Chine, c'est tout simplement prendre le risque de voir d'une partie de ces sujets échapper à son emprise. Alors, il expulse tout simplement les jésuites de Chine sous prétexte qu'ils refusent de se soumettre à lui et qu'ils refusent de se soumettre aux coutumes locales. En cela, Charles Maillard avait vu juste. Bon, alors les jésuites vont tenter de faire leur possible pour changer le décret de l'empereur. Finalement, en 1720, ils arrachent de l'empereur l'autorisation d'entreprendre à nouveau un travail d'évangélisation en Chine. Et malheureusement pour eux, en mai 1742, nous avons vu, le pape Benoît XIV abolit l'ordre des jésuites. Et alors, ce décret était particulièrement malheureux parce qu'il allait briser l'élan missionnaire catholique à peu près durant 2 siècles. Et dans la première moitié du XVIIIe siècle, on assiste à un effondrement dramatique des missions catholiques à cause justement de la mise au pas du principal mouvement missionnaire catholique qui est l'ordre jésuite. Bon, il y a une deuxième raison à cet effondrement de la mission catholique, c'est que ce le XVIIIe siècle est le début du déclin justement des deux piliers, si vous voulez, de la mission catholique dans le monde, que sont l'Espagne et le Portugal. C'est grâce à ces deux pays que l'Amérique du Sud avait été évangélisée. Et finalement, c'était l'essentiel des missionnaires catholiques venait justement de ces deux pays. Finalement, les jésuites tenteront de rester en Chine jusqu'à la fin du siècle, clandestinement, malgré l'ordre du pape. Alors, ils sont dans une situation, voyez-vous, extrêmement complexe. D'un côté, ils connaissent l'hostilité de l'empereur, et de l'autre côté, eh bien, ils sont désavoués par le pape. Donc, bon, bah, c'est pas extraordinaire. Et profitant de cette situation, l'empereur en persécute un certain nombre qui sont exécutés. Il y a de nombreux martyrs. C'est peut-être pour eux l'occasion de gagner la palme du martyr, j'en sais rien, le Seigneur le sait. En tout cas, le résultat le plus tangible, c'est que le travail s'effondre, le travail catholique s'effondre. Ainsi, par exemple, en 1747, un nommé Sands est arrêté avec 4 autres missionnaires. Il est horriblement torturé à la chinoise, comme les Chinois savent le faire, puis ensuite décapité. L'évêque jésuite de Nankin doit se cacher de 1760 à 1787 jusqu'à la mort de l'empereur. Le pape, donc, a aboli l'ordre jésuite et il déclare qu'aucun de ses successeurs ne pourra jamais le rétablir parce qu'il est devenu inutile. C'est intéressant d'ailleurs de voir que les décrets des papes absolument inamovibles peuvent être éventuellement revus par leurs successeurs, ce qui laisse mal augurer. Par exemple, quand le pape actuel déclare qu'on ne pourra jamais revenir sur la question du divorce ou des choses comme ça, ou de l'ordination des femmes, les catholiques rigolent parce qu'ils savent bien qu'un autre pape changera tout ça, quoi. Bon, alors à cette époque, il y avait à peu près 22 000 catholiques en Chine. Et à la suite de ces persécutions, 3 000 missionnaires doivent rentrer. Ils sont irremplaçables parce qu'il n'y a pas de cadres locaux qui sont capables de prendre la relève. En abolissant l'ordre des jésuites et en demandant le rapatriement des missionnaires, le pape condamne la mission en Chine à la faillite totale. Dans le même temps, n'est-ce pas, même en Amérique du Sud, les choses ne vont pas très bien non plus pour le catholicisme. Car au Paraguay, qui était aussi donc un pays qui était entièrement entre les mains des jésuites, un pays artificiel créé uniquement par les jésuites, dans tous les différents domaines, n'est-ce pas, dans le domaine spirituel, mais également dans le domaine social, dans le domaine économique, l'exploitation des terres était entre les mains des jésuites qui enseignaient aux indigènes les techniques de culture, etc. Bon, l'abolition de l'ordre des jésuites fait que ce pays tout entier s'effondre. Puisque les jésuites n'existent plus, les jésuites doivent rentrer. Donc, automatiquement, le Paraguay retombe dans une décadence et dans un chaos total. C'est un véritable désastre. En Inde du Sud, les quelques missions catholiques qui s'y étaient installées grâce aux jésuites s'y maintiennent à grand-peine. Et finalement, d'où vient justement cette Et s'est-il contre les jésuites? Eh bien, de la querelle avec les jansénistes. Il n'y a pas assez de prêtres indigènes. L'indigénisation de la foi, comme l'avait vu Maya, n'a pas eu lieu. On continue dans tous ces pays-là à faire la messe en latin, etc., etc., à lire la Bible en latin et tout ce qu'on voudra. Et c'est le moment où, du côté protestant, au contraire, sous l'impulsion des Moraves, on a compris qu'il fallait une indigénisation de la foi. Et les Moraves vont être les premiers à entreprendre cette grande œuvre de la traduction de la Bible dans les langues vernaculaires, dans les langues indigènes. N'est-ce pas ? Et là, les catholiques vont être rapidement dépassés, même si, n'est-ce pas, à part les Moraves, les efforts des milieux protestants seront très, 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 très limités, n'est-ce pas ? Les pays qui sont sous la domination de l'islam sont totalement inévangélisés parce que l'évangélisation est pratiquement impossible. En Russie, c'est l'époque de la création de la nation russe et l'Église orthodoxe va tenter timidement l'évangélisation des nations récemment conquises. Il y a un véritable avancée, si vous voulez, vers l'Asie centrale des forces russes qui vont créer un véritable empire colonial qui va demeurer jusqu'à Gorbatchev et qui va s'effondrer, qui est en train de s'effondrer de nos jours, n'est-ce pas ? Mais par exemple, tous les peuples ouzbeks, tartares, enfin tous ces peuples-là, n'est-ce pas, sont conquis à cette période-là. Et finalement, ce sont des idolâtres, ce sont des gens qui n'ont aucune vision de la foi chrétienne, ils n'ont jamais été évangélisés, et l'Église orthodoxe reçoit du pouvoir russe l'ordre d'évangéliser ces gens-là, ne serait-ce que pour les intégrer au sein de l'Empire russe, que la religion soit un facteur d'unification de populations qui n'ont a priori aucune raison de se sentir russes. C'est ainsi que Pierre le Grand, n'est-ce pas, envoie en Sibérie un certain nombre de missionnaires dès juin 1700. Il y a donc une mission en Sibérie occidentale qui est ainsi créée. Le 4 juillet 1702, deux missionnaires sont envoyés et ils vont tenter donc d'évangéliser ces populations-là. Mais ça va être finalement... Ils vont toucher pas mal de gens. Mais finalement, comme le tsar exige que la population mâle de ces pays-là fasse le service militaire, paye des taxes, etc., eh bien, pour ces raisons-là, les indigènes de cette région-là refusent, n'est-ce pas, la foi orthodoxe, donc la foi chrétienne. On envoie aussi un évêque orthodoxe en Chine avec mission d'évangéliser la Chine. Les orthodoxes vont avoir, bon, ce ne sera pas un effort bien gigantesque, mais il y a par exemple un certain nombre de Russes qui résident à Pékin. Souvent, ce sont des déserteurs de l'armée et le pouvoir central de Moscou, Pierre le Grand en particulier, pense qu'ils ont des responsabilités vis-à-vis de ces Russes qui sont installés à Pékin et on leur envoie donc un évêque pour s'occuper de leurs besoins spirituels et éventuellement aussi pour convertir un certain nombre de Chinois. Et ce n'est qu'en 1723 que la presqu'île qui se trouve entre la Sibérie et la Chine, la presqu'île de Katcha, c'est ça, quelque chose comme ça, est évangélisée pour la première fois par un seul prêtre. N'est-ce pas, le pouvoir de Moscou envoie un seul prêtre pour cette vaste région. Autant dire qu'il ne faut pas s'attendre à des résultats mirobolants. Finalement, les orthodoxes s'appuient aussi sur les quelques catholiques qui sont là, et finalement, quelques Chinois se convertissent. Bon, on a une mission aussi chez un peuple nomade des steppes de l'Oural qui s'appelle les Kalmesh. On a une mission en Haute-Volga qui a un petit peu plus de succès. Et entre 1700 et 1755, il y aura 35 000 convertis qui vont se convertir en cette région-là, de la Haute-Volga. Alors, là, on a été un peu plus intelligent. On prend la mesure, n'est-ce pas, de l'échec qui s'est produit en Asie occidentale, en Sibérie occidentale, je veux dire. Et alors, on déclare au contraire que tous ceux qui se convertiront seront exempts de taxes et de services militaires. Alors, forcément, la mission connaît un succès assez important, quoi, à cause de cela. Bon. C'est ainsi que, par exemple, un certain nombre d'indigènes se feront baptiser 2-3 fois pour à chaque fois toucher les abattements sur les taxes qui leur sont ainsi promises. Alors forcément, ça gonfle les chiffres, quoi. On comprend bien. Bon, alors, c'est très bien d'avoir converti tous ces gens-là, mais on comprend qu'on a besoin de les instruire un peu dans la foi chrétienne. Alors, c'est ce qu'on essaie de faire. Bon, il y aura aussi dans ces régions 8000 Tartares musulmans qui vont quitter l'islam et qui vont être baptisés pour les mêmes raisons, pour des raisons d'avantage. Et en 1750, les mollahs vont protester auprès du Saint-Synode en disant qu'on emploie une concurrence déloyale dans ce domaine-là. Le Saint-Synode rejette le rappel, bien entendu, et le résultat, c'est qu'une révolte éclate. Finalement, le gouvernement central de Moscou, devant cette révolte, recule et puis retire les missionnaires. Bon. Alors ensuite, on a une mission chez les Cosaques. Les Cosaques qui sont esclavagistes, alors on rachète les esclaves et on les baptise, n'est-ce pas ? Ils ont droit à leur liberté à condition qu'ils se fassent baptiser. Alors évidemment, c'est un argument aussi assez convaincant en ce qui concerne ces malheureux esclaves qui sont bien heureux ici d'échapper à leur sort. Bon, il y a la région en 1727, un diocèse est créé à Irkoutsk. La mission se produit, se développe dans cette région-là auprès de gens qui vivent encore dans des conditions qui sont celles de l'âge de la pierre. Et en l'espace de quelques années, il y aura un archimandrite qui sera créé pour toutes ces régions-là. Dans le même temps, il y a des missionnaires américains qui arrivent dans les îles Aléoutiennes et qui commencent à évangéliser les indigènes de ces îles. Et puis, en 1728, un Danois du nom de Bering arrive dans cette région-là. Il va donner son nom au détroit du même nom jusqu'à aujourd'hui, mais au départ, c'est un missionnaire. C'est un missionnaire qui vient évangéliser les habitants de ces régions-là, qui reçoivent l'évangile avec beaucoup d'empressement, parce que, vous savez, ce sont des gens qui ont des traditions comme celles que Don Richardson explique dans son livre « L'éternité dans leur cœur », qui attendaient, n'est-ce pas, une révélation qui leur viendrait par des gens qui viendraient de loin. Donc, si vous voulez, très vite, il va avoir du succès, Bering va avoir du succès, et il va baptiser rapidement 6000 indigènes pendant son ministère dans ces régions-là. Il meurt le 7 octobre 1796. Pourquoi cet effort très timide des missions protestantes pendant ce siècle-là ? Eh bien, les controverses interprotestantes épuisent les forces vives du protestantisme. Ajoutons à cela, c'est pas l'opposition catholique, il y a par conséquent ici une négligence très grande, si vous voulez, de l'effort missionnaire, ce que les catholiques d'ailleurs reprochent aux protestants. Dans la polémique anti-protestante, on trouve le fait que les catholiques reprochent aux protestants leur manque de zèle de missionnaires, ce qui prouve bien qu'ils ne sont pas la véritable Église, parce que Jésus a dit « Allez dans le monde entier, portez la bonne nouvelle à toute la création ». Donc, dans la mesure où les protestants ne répondent pas à cette vocation, c'est la preuve que c'est l'Église catholique qui, elle, au contraire, répond à cet appel du Christ, qui est la véritable Église. Bien, malgré tout, n'est-ce pas, il y a des sociétés qui se créent pour la prédication de l'Évangile. En 1701, les Anglicans créent la Société anglicane pour la propagation de l'Évangile à l'étranger. Et quelques années plus tard, il va y avoir un missionnaire de cette mission qui va être envoyé parmi les Indiens d'Amérique pour les évangéliser. Il s'appelle David Froissart. Et il va se lier en particulier avec Jonathan Edwards aux États-Unis pour évangéliser justement les Indiens. Puis de là, il ira aussi travailler aux Antilles, où se trouvent déjà les Moraves, comme nous avons l'occasion de le voir. Finalement, cette société missionnaire anglicane va envoyer 350 missionnaires qui connaîtront un certain succès. Donc, ce n'est pas absolument négligeable, mais tout le travail qui va être effectué en Amérique du Nord en particulier va finalement être ruiné par les guerres des Blancs contre les Indiens qui vont apporter, ce faisant, un contre-témoignage et détruire aussi le travail des piétistes, des Moraves et des missions wesleyennes également. Bon, nous savons que les piétistes, les Moraves vont avoir un grand travail, notamment en Amérique, aux Antilles et chez les Indiens. Et les Moraves ont 5 principes missionnaires que nous avons déjà vus. C'est pas le premier que l'évangélisation et l'éducation des enfants vont ensemble. Et là où les Moraves créent une église, ils créent dans la foulée une école pour enseigner les enfants. Deuxième travail qui découle du premier, c'est la traduction de la Bible. Il faut tout de suite traduire la Bible en langue indigène, et les Moraves vont avoir un très très grand travail de traduction de la Bible. Ils vont être les précurseurs des sociétés bibliques. Le troisième principe, c'est que la prédication doit absolument se tenir compte de la mentalité et des cultures des peuples, et donc s'indigéniser sans rien altérer au message, que le but essentiel de la mission, c'est d'amener des âmes à se tourner personnellement vers Jésus-Christ, donc un travail de conversion. Et cinquième principe, que quand on a amené des âmes à Jésus-Christ, il faut créer des églises indigènes le plus tôt possible et laisser ensuite les églises entre les mains des pasteurs indigènes. C'est ainsi que, en 1733, le premier pasteur indigène indien, n'est-ce pas, est converti et plutôt est ordonné, n'est-ce pas. Il y en aura même chose au Groenland en 1722. Il y aura un pasteur indigène qui sera ordonné après que les missionnaires Moraves avaient travaillé depuis 1722 dans l'île avec des grandes difficultés parce que la langue des Esquimaux était une langue très très complexe, très très difficile. En 1736, la Bible est traduite en dialecte dans ce dialecte-là après que les missionnaires l'aient maîtrisée. Et nous avons vu aussi que les Moraves vont avoir des missions en Afrique, par exemple à Monrovia, dans la Guinée hollandaise, au Suriname, etc. En 1731, un missionnaire Morave arrive au Ghana, il s'appelle Thomas Thompson. Les résultats seront assez insignifiants, etc., etc. Jonathan Edwards, au moment du Grand Réveil en Nouvelle-Angleterre, a fait aussi de la mission un de ses thèmes essentiels. Et il, dans toutes les églises où éclate le Réveil, il demande que l'on prie pour les missions, pour envoyer des ouvriers dans la moisson. Mais ce qui est assez extraordinaire, c'est que ça s'arrête là. On prie pour envoyer des missionnaires, mais finalement, le Réveil de Nouvelle-Angleterre n'envoie aucun missionnaire. Elle prie pour les missionnaires, envoie des missionnaires, mais n'en envoie aucun, finalement. Pourquoi, n'est-ce pas? C'est assez incompréhensible, n'est-ce pas? Des hommes comme ça, qui ont pourtant la vision de la mission, n'agissent pas dans ce domaine-là. Il faudra attendre le siècle suivant, le 19e siècle, pour que ce soit le grand élan des missions, quoi, le grand élan des missions. Bon, alors, ça, c'est une chose importante. Alors, la mission, eh bien, a pour promoteur essentiel, à la fin du siècle, William Carey. La mission d'Isendorf est très intéressante, très importante, mais finalement, elle représente l'essentiel de l'effort protestant au XVIIIe siècle. Et finalement, la transition se fait à la fin du siècle et au début du siècle suivant par justement cet humble cordonnier de Moulton, dans le Northamptonshire, en Angleterre, n'est-ce pas, qui va avoir la vision de la restauration de la mission, de l'appel, de ce qu'il appellera la grande commission, n'est-ce pas, quand Jésus dit « Allez dans le monde entier, prêcher la bonne nouvelle à toute la création », qui est sa dernière parole avant son enlèvement. Bon, William Carey est donc ce jeune garçon, n'est-ce pas, humble cordonnier, qui le soir après son travail étudie la Bible en hébreu et en grec. C'est un garçon remarquablement intelligent, bien qu'il soit d'origine très humble, et il sera aussi d'ailleurs très vite amené à donner des leçons aux enfants. Il fera un petit peu office d'instituteur. Mais ce qui le passionne beaucoup plus que l'étude de l'hébreu et du grec, c'est l'étude de la géographie. C'est un passionné de géographie. Et il passe des heures entières, l'essentiel de ses nuits, n'est-ce pas, à étudier toutes sortes de, à dévorer toutes sortes d'ouvrages sur la géographie. Il a chez lui des grandes cartes, n'est-ce pas, du monde entier, et il devient très vite incollable sur tout ce qui concerne la géographie. Bon, il est né de parents tisserands, et ses parents étaient chrétiens, des chrétiens baptistes. Sa grand-mère, en particulier, lui enseigne la Bible. C'est à 14 ans qu'il devient apprenti cordonnier. Et le soir, il participe à des réunions de réveil dans des églises dissidentes, c'est-à-dire les églises qui sont issues des différents réveils, wesleyens et autres, n'est-ce pas? C'est un garçon qui n'a pas peur, n'est-ce pas, de s'afficher dans ces lieux-là. Finalement, les églises dissidentes sont à peu près, si vous voulez, dans le statut où seraient les sectes aujourd'hui. Participer à des églises dissidentes, c'est être membre d'une secte. C'est à peu près la même chose. Et pourtant, le jeune William Carré n'hésite pas à se joindre à ces gens-là. Et quand on lui en fait le reproche, notamment son patron, il dit, eh bien, il est écrit, n'est-ce pas, sortons du camp en portant son opprobre, l'opprobre du Christ. Pas? Et effectivement, se joindre à une église de ce type-là, c'est vraiment sortir du camp, sortir des églises établies, sortir des églises officielles et prendre un opprobre qui peut être celui du Christ, mais en tout cas qui est un opprobre à n'en pas douter. Il se convertit dans ces milieux-là. Et puis, il se joint à ces églises dissidentes. En 1779, son patron cordonnier meurt. Lui-même, à cette époque-là, est âgé de 18 ans. Et c'est alors qu'il est obligé de changer de patron. Il entre comme ouvrier chez un certain Thomas Auld, bien qu'en principe, il ne soit pas encore, n'ait pas terminé son apprentissage. 2 ans après, il se marie avec la belle-sœur de son patron, qui s'appelle Dorothée Blackett, et sa femme et lui se joignent à l'église congrégationaliste du lieu, qui deviendra plus tard une église baptiste. 2 ans et demi après, il devient patron à son tour, de ce petit atelier de cordonnerie. Et c'est alors qu'il commence à prêcher comme prédicateur laïque dans l'église congrégationaliste dans laquelle il s'est joint. Tout en continuant à étudier le soir en autodidacte, comme nous l'avons vu. Et le 5 octobre 1785, il demande le baptême par immersion. Il est donc baptisé par immersion. C'est alors qu'il a la grande douleur de perdre sa fille aînée. Et lui-même sera tellement marqué par ce deuil, n'est-ce pas, que pendant tout un temps, il va tomber malade. Et à la suite de cette maladie, il sera complètement chauve, tout en étant encore très jeune. En 1785, il devient membre de l'église baptiste locale, puis il deviendra le prédicateur principal de cette église. À 24 ans, il a 3 fils, outre la fille qui est décédée, et il a réussi à apprendre plusieurs langues, dont 3 langues mortes, l'hébreu, le grec et le latin. En 1787, il est consacré comme pasteur baptiste, et c'est alors qu'il va commencer à être tourmenté par la question des païens qui meurent sans jamais avoir entendu l'Évangile. Il lit et relit le texte de Jésus, aller par toute la terre, annoncer la bonne nouvelle. Et comme il est un passionné de géographie, il est bien conscient qu'il y a des millions et des millions de païens qui n'ont jamais eu l'occasion d'entendre l'Évangile. À cette époque-là, à la fin du XVIIIe siècle, le christianisme est loin d'être une religion universelle comme il l'est aujourd'hui. C'est une religion européenne, en fin de compte, ça, sans plus. Et soudain, William Carré prend conscience que l'Église a été infidèle, hein, sur ce point-là et qu'elle n'a pas obéi à l'ordre de Christ de porter l'Évangile à toute la création. Et alors, cette idée le tourmente pendant plusieurs années. Et un beau jour, n'est-ce pas, un beau jour de mai 1791, il écrit les idées qui sont les siennes, qu'il a mûri pendant ces 4 années précédentes. Il l'écrit dans un petit opuscule de 90 pages environ. Et cet opuscule, dans la rencontre de serviteurs de Dieu qui suit dans l'année suivante, n'est-ce pas, il en fait part, il le lit. Il le lit publiquement, puis d'abord il le remet à un pasteur ancien en lui disant qu'il va le lire après. Alors le pasteur ancien le lit, pasteur d'ailleurs qui a été son pasteur, qui l'a formé, et puis qui le lui rend en lui disant, mon cher ami, si Dieu veut convertir les païens, il le fera sans toi et sans moi. C'est une manière brutal de lui dire qu'il est tout à fait à côté de la plaque, quoi. Alors, William Carré ne l'entend pas de cette oreille-là. Il discute, il lui dit, ben, si la rédemption est pour tous les hommes, ce dont tout le monde est bien d'accord, n'est-ce pas, il faut que ceux qui ont expérimenté le salut en fassent part à ceux qui ne l'ont pas connu, à ceux qui ne l'ont pas expérimenté. Et par conséquent, nous, dit-il, vous et moi, nous avons des responsabilités, nous avons des obligations vis-à-vis de ceux qui n'ont jamais entendu l'Évangile. Alors ça nous semble, nous, une évidence. Nous qui vivons plus d'un siècle après William Carré, mais il y a un peu plus d'un siècle, ça n'était pas une évidence, n'est-ce pas ? Alors, il remarque que les catholiques ont été plus fidèles que les protestants sur ce plan-là, et que les catholiques ont évangélisé au moins l'Amérique du Sud, quoi. Hein. Bon, il a un grand respect pour le travail qui a été accompli par les Moraves aussi. Et puis, bon, tout ça, il le met dans son écrit. Il dit, voilà, nous avons ces obligations-là. Voilà ce qui a été fait, les catholiques, les Moraves, etc. Et puis, voilà ce qui n'a pas été fait. Et il décrit ce qui n'a pas été fait. Les immenses besoins qu'il y a dans ce domaine-là. Et puis ensuite, il examine les objections, les refus de son temps. Et puis alors, termine son petit opuscule en disant qu'il faut prier pour que le Seigneur envoie des ouvriers dans la moisson. Et puis aussi qu'il faut agir en créant une société missionnaire. Voilà, ça c'est son grand désir, que l'on crée une société missionnaire. En 1789, il s'était installé, avait changé d'église, était devenu pasteur d'une église à Leicester. Et puis en 1792, il est nommé pasteur à Nottingham. Et là, il va prêcher dans son église sur la vision missionnaire, sur la vision qui est la sienne. Et c'est alors qu'il retourne vers son pasteur, pasteur Fuller, et déclare qu'à la prochaine conférence qui devait avoir lieu en octobre de la même année, mais enfin, c'est l'ensemble des églises dans lesquelles évolue Carré. Et là, il dit, voilà, je demande cette création d'une société missionnaire. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire comme ça ? Alors finalement, il dit, moi, voilà, je fais don de ma vie pour l'œuvre missionnaire. Je suis prêt à partir. Hein, je suis prêt à partir. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour m'aider ? Je serai le premier missionnaire de cette société missionnaire qui sera créée. Là, finalement, la collecte donne 13 livres pour aider Carré dans son entreprise missionnaire, autant dire pratiquement rien, quoi. Mais c'est tout ce que ces pauvres gens avaient pu faire. Mais William Carré, il en faut plus que ça pour se décourager. Et donc, la société est créée avec Fuller comme secrétaire. William Carré prend contact avec un de ses amis qui s'appelle John Thomas et qui revient du Bengale. À titre professionnel, Bengale donc c'est en Inde, et qui veut y retourner comme missionnaire et qui cherche quelqu'un pour l'accompagner là-bas. Alors, Carré dit, bien, moi je suis ton homme, hein, il n'y a pas de problème. Mais Madame Carré refuse. Et finalement, William Carré dit, bah, tant pis, celui qui aime son père, sa mère, sa femme ou ses enfants, plus que moi, n'est pas digne de moi. Il dit à sa femme, tu ne veux pas partir, eh bien, je pars sans toi. Je pars sans toi. Alors, il a décidé qu'il partira sans sa femme, et puis qu'il reviendra 2 ans plus tard, et que dans 2 ans, si sa femme est décidée à partir, eh bien, elle partira avec lui. En 1793, alors, il fait ses adieux à son église et annonce son départ. En fait, avant de partir, il doit payer un certain nombre de dettes. Et pour ce faire, il entreprend une tournée dans les églises pour récolter de l'argent, pour éponger ses dettes avant de pouvoir partir en mission. Donc, pas question d'avoir de l'argent devant lui pour l'œuvre missionnaire. Donc, il s'embarque, il décide de s'embarquer pour l'Inde avec son compagnon John Thomas. Et il trouve un bateau qui s'appelle l'Earl, l'Earl of Oxford, très exactement, qui est d'accord pour l'emmener en Inde, enfin qui lui loue une place sur le bateau. Bon, ce bateau appartient à l'East India Company. C'est l'époque où les Anglais commencent à coloniser l'Inde, n'est-ce pas ? Seulement, le problème, c'est que cette East Indian Company n'aime pas beaucoup les missionnaires, parce que les missionnaires sont des gens qui cherchent à convertir les populations locales avec lesquelles cette East India Company fait des affaires, et ça risque de mécontenter les autorités locales et par conséquent de nuire au commerce. Alors, bon, on regarde avec suspicion ce bonhomme-là qui s'embarque pour aller faire de la mission. Et puis quand le capitaine de l'Earl of Oxford se rend compte que Carré est bien décidé à prêcher l'évangile, ben, il le débarque sur la côte indienne, manu militari, en lui disant de se débrouiller, qu'il ne va pas l'emmener plus loin. Donc William Carré est bien ennuyé. Finalement, un autre bateau finit par aborder à ce même endroit et puis accepte de l'embarquer jusqu'à l'Inde. Et c'est alors que sa femme décide de venir le rejoindre avec sa sœur, n'est-ce pas ? Et donc, le départ a lieu le 3 juin, ils arrivent à Calcutta le 7 novembre. Pendant la traversée, William Carré a appris le bengali. Il a suffi quand même de peu de temps pour apprendre cette langue, ce qui montre qu'il est extraordinairement doué pour les langues, extraordinairement intelligent. Et il arrive donc à Calcutta. La première chose qu'il se rend compte à Calcutta, c'est que les plus gros obstacles qu'il va rencontrer sont les obstacles qui viennent des Blancs. Non seulement à cause de l'East India Company qui règne en maîtresse à Calcutta, mais également aussi du fait que c'est tous ces gens-là qui appartiennent à cette compagnie-là vivent une vie moralement dissolue dans les délices de l'Orient et par conséquent voient vraiment d'un très très mauvais œil l'implantation d'une œuvre missionnaire dans cette ville de Calcutta. William Carré ne se laisse pas décourager pour autant. Et pour échapper à la compagnie qui essaie de le court-circuiter, il s'échappe de nuit du bateau, n'est-ce pas, dans une chaloupe, avec ses compagnons et avec Thomas pour commencer à prêcher. Et il va donc se mettre à la tâche. Il va connaître 6 années extrêmement difficiles. Son compagnon se révèle être quelqu'un qui n'est pas du tout à la hauteur de la tâche, et notamment qui ne cesse de contracter des dettes à une époque où l'argent ne court pas les rues. Et finalement, William Carré, qui doit éponger constamment les dettes de son compagnon, n'a d'autre solution que de chercher du travail. Alors, il est embauché pour le compte de la compagnie, puisque finalement, c'est la seule source d'emploi dans cette période-là, qui l'envoie défricher la jungle. Alors, il est en proie aux tigres, aux serpents, enfin, à toutes les joyeusetés qu'il y a dans ces pays-là. Et puis, finalement, au bout d'un temps, il se rend compte que là, il est en train de dévier complètement. Il n'a pas été envoyé en Inde pour défricher la jungle. Et finalement, il quitte la compagnie et il va créer sa propre affaire. Et finalement, avec Thomas, il crée une fabrique d'indigo qui marche assez bien pendant un certain temps. Et à partir de ce moment-là, au moment où il est autonome sur le plan financier, il écrit à Londres pour qu'on ne lui envoie plus son salaire, mais par contre pour qu'on lui envoie d'autres collaborateurs. Bon, il s'est installé en pleine jungle, n'est-ce pas, dans des conditions très très précaires, au milieu des serpents, des crocodiles, etc. Tellement qu'au bout d'un temps, Madame Carré ne supporte pas ça, elle devient folle. Et puis il a un autre coup dur, c'est que un de ses fils, Pierre, meurt, n'est-ce pas, aussi à cause des rigueurs du climat et des rigueurs de la vie qu'il mène. Pour vous donner un exemple, la première lettre qui lui vient d'Angleterre lui parvient 15 mois après son départ. Alors, vous voyez que c'est partir là-bas, à cette époque-là, comme missionnaire, c'est vraiment partir vers la mort. Mais William Carré est vraiment décidé, c'est un homme de Dieu, et non seulement il commence à prêcher l'Évangile, mais il ouvre une école pour pouvoir recevoir des enfants pauvres. C'est pas des enfants pauvres qui sont un petit peu, vous savez, les parias, comme c'est le cas dans l'Inde, et qui doivent travailler, qui ne peuvent pas s'instruire parce que leurs enfants, leurs parents, les envoient travailler dès leur plus jeune âge. Alors, Carré les reçoit gratuitement et leur enseigne, les nourrit, leur enseigne la Bible, grâce à la petite entreprise qu'est la sienne. Puis, il se met à traduire la Bible en bengali, cette langue qu'il a appris là, et alors, finalement, ce qu'il demande à Londres, ce sont uniquement des nouveaux missionnaires, des nouveaux collaborateurs, il en faut davantage. Finalement, Londres finit par lui envoyer deux hommes qui se sont décidés à le suivre parce que personne pratiquement n'est prêt à répondre à l'appel de l'Inde, n'est-ce pas? Finalement, deux hommes, qui s'appellent William Ward et Joshua Menchman, lui arrivent pour s'occuper justement de cette école qu'ils viennent créer. Ce sont non pas des gens qui viennent pour prêcher l'évangile, mais pour enseigner. Et alors, William Carey les avait prévenus, il dit, écoutez, quand vous arriverez, surtout dites pas que vous venez pour prêcher l'évangile, dites que vous venez pour enseigner, ce qui est vrai d'ailleurs, n'est-ce pas? Et puis, je sais pas, ces deux hommes n'écoutent pas les conseils de Carey, puis déclarent haut et fort qu'ils viennent comme missionnaires pour prêcher l'évangile. Résultat, même chose que pour Carey, la compagnie ne veut pas les débarquer, ils sont obligés de fuir clandestinement, et finalement, ils ne peuvent pas atteindre William Carey. Donc William Carey est très dans une situation très très difficile et finalement il doit quitter la région où il se trouve. Et le 10 janvier 1800, il change d'endroit, il vient s'installer à Saranpore et ce sera le véritable début de son œuvre. L'œuvre va véritablement démarrer à Saranpore alors que William Carey a 39 ans. Et en même temps, c'est pour lui quelque chose de tout à fait positif que ce changement de localité, parce que là, il est en dehors du territoire qui est contrôlé par la fameuse compagnie, n'est-ce pas? Et c'est alors que là, il va pouvoir récupérer aussi ses compagnons qui sont toujours surveillés par la compagnie. Malheureusement, un meurt, n'est-ce pas? Les conditions climatiques sont difficiles. Et finalement, il ne reste plus que trois missionnaires, dont William Carey lui-même. Et c'est alors que Carey va apprendre une autre langue, le sanskrit, qui est une langue qui est parlée dans la région où il se trouve. Lui apprendre des langues, il apprend des langues avec une facilité absolument déconcertante, n'est-ce pas? Et puis, évidemment, son but va être aussi de traduire la Bible en sanskrit. Bon, on va s'arrêter là, si vous voulez, pour ce soir. Et puis, on va voir ensuite ce développement de l'œuvre de William Carey en Inde, hein, qui va être la première grande, grande œuvre missionnaire, on peut dire le modèle de toutes les missions modernes. Voilà, si vous avez des questions à poser là-dessus, tu peux prêter un crayon une seconde, merci.